Chers frères et sœurs, chers amis, vous êtes venus nombreux, très nombreux, cet après-midi, pour entourer Jean-Marc Goua et Roland Hyère, qui vont être ordonnés diacres permanents pour le service de notre diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron. Pardon pour ceux qui sont debout, sur le parvis, ce qui est tout un symbole. Nous ne sommes pas appelés à rester entre les quatre murs de nos églises, mais nous sommes envoyés précisément comme une église en sortie pour proclamer l'Évangile à toute la création. Je veux saluer d'abord, bien sûr, avec affection, les épouses respectives de nos deux futurs diacres, Eliane et Monique, et leurs familles, ici rassemblées. Et les remercier particulièrement pour avoir accepté cet appel de l'Église adressé à leurs époux pour devenir des ministres, des serviteurs précisément, du peuple de Dieu. Merci aussi à leurs équipes d'accompagnement qui ont attesté de leur bonne préparation à ce sacrement de l'ordre en son premier degré. Merci aux nombreux prêtres et diacres qui les entourent aujourd'hui. Les diacres en particulier qui accomplissent leur formation initiale avec eux depuis plusieurs années et encore pour 2 années. Merci aux fidèles nombreux qui sont ici rassemblés, à commencer par les communautés paroissiales dont ils sont issus, la communauté de la paroisse Saint-Jean de la Note Pisanos. Et merci à monsieur le curé, monsieur l'abbé Dominique Maillasser, de nous accueillir avec eux dans cette église Saint-Magne, dont il faudrait un peu pousser les murs comme pour la prochaine fois. Et puis la communauté paroissiale de Saint-Michel de Montanérès gère, à laquelle on associe bien sûr, la communauté paroissiale de Saint-Joseph de Douce, Soumoulou. Merci à vous tous de les entourer à ce moment important pour eux, pour leur famille, pour leur communauté paroissiale, mais aussi pour l'Église, et en particulier pour notre diocèse de Lescar, de Bayonne, pardon, Lescar et Oloron. Par l'imposition de mes mains et le don de l'Esprit Saint, ils vont entrer en effet dans le sacrement de l'ordre. Ils vont être configurés au Christ, serviteurs de l'Église. Vous savez dans quel contexte les diacres ont été institués, tels que nous le raconte saint Luc dans les Actes des Apôtres, au chapitre 6e de ce livre. Les apôtres, précisément, pour ne pas délaisser ce qui était le cœur de leur ministère apostolique, à savoir la prédication, l'annonce de la parole, et la prière, à commencer par la prière liturgique, sacramentelle, celle de l'Eucharistie, au centre de la vie chrétienne, furent inspirés d'appeler 7 hommes pleins d'esprit et de sagesse pour les députer au service des tables, nous dit saint Luc. C'est-à-dire sans doute plus particulièrement au service de leurs frères, à commencer par les plus petits, les plus faibles, les plus fragiles, dans leur corps, par la maladie, par la précarité, par l'exclusion, par la marginalisation. Il ne s'agit pas simplement d'un service technique, d'un service philanthropique qui pourrait être accompli par d'autres et qui est de fait accompli par d'autres aussi à l'extérieur de l'Église. Mais il s'agit d'un service, c'est-à-dire d'un ministère spirituel qui nécessite la grâce de l'Esprit-Saint, la prière de l'Église et l'imposition des mains pour être configuré au Christ, serviteurs, et apporter plus qu'un service technique et matériel, les relier ce service au salut des âmes, relier ce service à la diaconie de la parole qui leur sera aussi confiée, et à la diaconie de la liturgie, à commencer par l'Eucharistie. Ils seront aussi députés à proclamer l'Évangile dans la liturgie de l'Eucharistie, à prêcher. Ils deviendront ministres ordinaires du sacrement du baptême et aussi de la communion, Ils prendront sur l'autel le corps et le sang du Seigneur pour le distribuer aux fidèles. Quel beau programme vous est donné aujourd'hui par l'évangile que nous venons d'entendre. Car au fond, votre ministère diaconal, comme mon ministère d'évêque, le ministère des prêtres, et la mission de tous les fidèles baptisés, s'inscrit dans la mission fondamentale de l'Église, qui est si bien exprimée par Jésus dans la finale de l'évangile de saint Matthieu, dans ce fameux mandat missionnaire, ainsi formulé : « Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder les commandements que je vous ai prescrits. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » La grande mission fondamentale de l'Église, c'est de faire des disciples. Vous êtes appelés, vous qui serez particulièrement par votre état, à être des ministres du seuil, dans votre famille, dans le travail, dans la vie associative dans laquelle vous êtes déjà engagés, appelés à faire des disciples de tous ceux que vous côtoierez, en particulier de ceux qui se tiennent loin ou qui se sont éloignés de l'Église. Mais encore faut-il que vous soyez vous-même des disciples. Il faut que nous soyons déjà parvenus, ou en tout cas au chemin, vers là où nous sommes appelés par notre service à conduire les autres. Et ce sont les conditions exigeantes que Jésus nous donne pour être de vrais disciples, afin de faire des disciples, ce qui est encore une fois la mission fondamentale de l'Église, quelle que soit notre grâce, notre ministère, notre état de vie. Conditions extrêmement exigeantes que Jésus n'adresse pas à une élite de parfaits, mais à ces grandes foules précisément qui faisaient route avec lui alors qu'il montait à Jérusalem et qui le suivaient sans doute avec des motivations qui n'étaient pas forcément celles que nous pourrions attendre lorsqu'on se met à la suite du Christ. Peut-être même pensaient-ils dans leur cœur que Jésus allait rétablir la royauté temporelle d'Israël et les libérer de l'occupant romain. Et Jésus, se retournant vers ces foules, que nous sommes, vous et moi, leur dit : celui qui vient à moi, sans me préférer à son père et à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et sœurs, et à sa propre vie, ne peut pas être mon disciple. Et de conclure cette parole qui doit résonner très particulièrement dans votre cœur, cher Jean-Marc et cher Roland : celui qui ne renonce pas à tous ses biens, à tout ce qui lui appartient, ne peut pas être mon disciple. Vous serez appelé en effet à vivre d'une manière toujours plus sobre et plus pauvre, ce qui s'appellera pour vous sans doute pratiquer davantage encore la vertu du partage. Vous serez appelé à renoncer pour une part à votre autonomie, vous qui avez une vie autonome par votre état de vie, marié, père de famille, engagé dans une profession et dans la vie du monde, par votre vie associative et vos engagements divers, à travers l'obéissance. Vous allez promettre obéissance entre les mains de votre évêque pour vivre en communion avec l'Église, l'Église d'aujourd'hui, l'Église d'hier, l'Église de demain, qui n'est pas votre Église ni la mienne, mais qui est l'Église du Christ, pour un projet et un salut qui ne nous appartient pas, qui n'est pas à la couleur de nos idées ou de nos opinions, mais qui est inscrite dans la parole de Dieu, écrite et transmise depuis 2000 ans. Il vous sera donné aussi, sans doute, de pratiquer d'autres formes de renoncement qui apporteront une certaine nouveauté dans votre vie de couple et de famille, pour que vous soyez toujours plus libre intérieurement, disponible pour accomplir fidèlement votre service du peuple de Dieu, celui qui vous sera confié. Voyez, chers frères et sœurs, comment ces deux petites paraboles que Jésus nous donne dans cet évangile pour exprimer ce que c'est qu'un disciple, qui est appelé à faire lui-même des disciples. Il compare ce disciple à un homme qui bâtit une tour, ou un roi qui s'en va en guerre avec 10 000 hommes contre une armée supérieure en nombre de 20 000. Vous serez appelés, précisément, par votre ministère, qui est d'abord un ministère prophétique et un ministère sacramentel. Vous serez appelés à être des bâtisseurs de l'Église, de la communauté, du corps du Christ, qui est appelé à faire des disciples dans le monde. Vous ne puiserez pas d'abord dans vos idées, vos opinions, mais dans la parole de Dieu. Parce que, comme dit l'auteur du livre de la Sagesse que nous avons entendu dans la première lecture, nos réflexions humaines, nos discernements, nos prudences sont incertaines et nos pensées instables. Qui a connu la volonté de Dieu ? C'est dans la parole de Dieu que vous puiserez le discernement nécessaire à accomplir cette mission prophétique pour construire avec votre ministère la communauté chrétienne. Aussi à travers les gestes de salut que Jésus met entre vos mains, ces gestes de charité qui en assureront la crédibilité et qui sont au cœur même de votre ministère diaconal, de service de vos frères, à commencer par les plus petits, les plus fragiles, les plus vulnérables. Mais aussi un ministère royal, un sacerdoce royal. Et le roi, c'est celui qui maintient son peuple dans l'unité. C'est celui qui travaille coûte que coûte à la communion. C'est celui qui défend cette communion comme un chef de guerre et qui déclare la guerre à tous les ennemis de cette communion qui ne sont pas, rassurez-vous, chers frères et sœurs, des ennemis de chair et de sang, mais qui sont l'expression et le signe de cet ennemi de la nature humaine que l'on appelle diable ou Satan. Je vous renvoie à ce que notre pape François nous écrit dans sa belle exhortation apostolique sur l'appel à la sainteté dans le monde actuel, lorsqu'il nous dit, je cite, « La vie chrétienne est un combat permanent. Il faut de la force et du courage pour résister aux tentations du diable et annoncer l'évangile. Diabolos, vous savez ce que cela veut dire en grec, cela veut dire le diviseur. Le diacre dans son ministère est appelé aussi au service des tables, à être au service de l'unité, de la communion, à combattre dans la communauté par son témoignage et son service, fidèle dans la communion hiérarchique de l'Église, tous les ferments de division qui blessent profondément l'unité du peuple de Dieu et du corps du Christ. Et puis vous avez entendu dans ces paraboles, Jésus nous dit, en comparant le disciple à un homme qui va bâtir une tour ou un roi qui s'en va en guerre contre un ennemi supérieur en nombre, qu'il doit commencer par s'asseoir. Qu'est-ce que ça veut dire dans la vie d'un ministre de l'Église, comme de tout fidèle baptisé qui est engagé dans la mission de l'Église, de s'asseoir? Ça veut dire commencer par s'asseoir en présence du Seigneur. Ça veut dire écouter quotidiennement sa parole et y puiser sa lumière pour orienter son service. Ça veut dire être fidèle à la liturgie des heures pour la part qui vous sera demandée en tant que diacre permanent. Cela veut dire s'asseoir tous les jours pour converser longuement avec le Seigneur, en particulier dans sa présence eucharistique, qu'elle soit au tabernacle, qu'elle soit célébrée à la messe, qu'elle soit exposée dans l'ostensoir. S'asseoir avec ses frères, s'asseoir avec les prêtres, s'asseoir avec tous pour se mettre à l'écoute du Seigneur et puiser en lui la lumière et la force de l'Esprit-Saint dont vous aurez besoin pour accomplir fidèlement votre service, comme je le dirai tout à l'heure dans la prière d'ordination. Envoie sur eux, Seigneur, l'Esprit-Saint, par lui qu'ils soient fortifiés des 7 dons de ta grâce pour remplir fidèlement leur ministère. Chers frères et sœurs, nous allons maintenant confier Jean-Marc et Roland à tous les saints du ciel, mais très particulièrement à la Vierge Marie. Nous faisons mémoire aujourd'hui de la Vierge Marie dans le mystère de sa nativité, cette belle fête mariale du début du mois de septembre, la nativité de Jésus, de Marie, qui nous rappelle le mystère de sa maternité divine, comme nous l'avons dit dans la prière d'ouverture de cette messe, qui inaugure le salut que Jésus seul peut apporter au monde, mais qui a appelé Marie d'une manière tout à fait unique et singulière à y collaborer. Confions leur service à celle qui s'est précisément déclarée la servante du Seigneur. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Elle qui a écouté la parole de Dieu, qui l'a méditée dans son cœur, qu'elle nous apprenne et qu'elle vous apprenne à être serviteur comme le Christ, qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude.